Au-delà des apparences.
Au-delà des apparences.
Une émission proposée par Sandrine Merck.
Bienvenue, chers auditeurs de Radio Présence. Une fois de plus, votre petite émission porte bien son nom, car Au-delà des apparences s'intéresse aujourd'hui à Jennifer, une chanteuse d'opéra, prof d'éducation civique et militante acharnée de l'école pour tous, mais vraiment pour tous. Chez elle, ça n'est pas un slogan du genre « liberté, égalité, fraternité, mon œil ». Non, elle vit toutes ses convictions jusqu'au bout. Nous sommes chez elle et son « chez elle » est aussi la maison de plusieurs jeunes, jeunes scolarisés, dont Ousmane, par exemple, qui est à nos côtés, et que nous, nous laissons dormir à la rue ou dans des squats dont ils sont régulièrement expulsés. Alors, qui est hors la loi ? Celui qui suit la loi de papier ou la loi humaine ? Eh bien, c'est toute la question que nous allons traiter en toute subjectivité, du seul point de vue de cette mezzo-educato révolutionnaire et d'Ousmane, son pensionnaire. Bonjour Jennifer.
Bonjour.
Alors, l'actualité brûlante, vous la connaissez tous les deux, puisque un squat vient de nouveau d'être expulsé et que des tentes ont de nouveau été dressées sur le trottoir à Toulouse.
Tout à fait, et à nouveau aussi expulsées, les tentes. Donc en fait, les jeunes étaient dans un lieu de vie depuis le mois d'avril, hein, parce que il n'y avait pas d'autre solution, mais il y a eu une mesure d'expulsion.
Vous dites les jeunes, mais oui, il faut reprendre le contexte. Qui sont ces jeunes et pourquoi ils sont dans des squats, puisque l'auditeur découvre ce que vous connaissez par cœur, puisque c'est votre vie depuis quelques années maintenant.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, ce sont des mineurs isolés étrangers en recours de minorité. C'est-à-dire que les jeunes mineurs isolés étrangers, quand ils arrivent sur le territoire français, ils se mettent en relation avec le Daomi. Le Daomi, qui est une structure qui existe depuis 2016. Avant la création de cette structure sur Toulouse, et c'est dans tous les départements, ben, ils allaient voir le conseil départemental et à 80%, ils étaient pris en charge directement. À partir du moment où le Daomi a été créé, à 80%, ils n'ont pas eu la reconnaissance de minorité et ils ont été mis à la rue. Mais une fois que c'est arrivé, ils peuvent faire un recours auprès du juge des enfants. Et à ce moment-là, on a eu des périodes où il y avait 95% des jeunes qui étaient finalement reconnus mineurs.
Sachant que la bataille tourne éternellement autour mineur, majeur, majeur, mineur, qui ne ment pas, mais globalement, ce sont quand même des jeunes qui ont largement en dessous de 30 ans, voire en dessous de 25 ans facile.
Même en dessous de 18. Enfin, là, pour eux, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi s'applique pour eux comme ça, elle s'applique pour n'importe quelle personne sur le territoire français. Ce sont les papiers d'identité qui font foi. Quand ils vont voir le juge des enfants, ils amènent leurs papiers d'identité. Et c'est le juge des enfants qui, nous, on ne se substitue pas à la loi. C'est-à-dire qu'on estime que, de toute façon, ils ont le droit de faire le recours. Enfin, légalement, ils ont le droit de faire le recours juridique et que ce sera de toute façon à la justice de trancher finalement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la justice. Ce n'est pas nous qui décidons s'ils sont mineurs ou majeurs. C'est la justice qui décide s'ils sont mineurs ou majeurs. Et à plus de 95%, à une certaine période, ils étaient reconnus directement mineurs. Et donc, mais l'hypocrisie fondamentale, c'est que pendant cette période-là, où ils font leur recours, par contre, ils ne sont considérés ni mineurs ni majeurs. Il faut comprendre qu'ils ont des papiers d'identité, qu'ils ont parfois énormément de mal à faire venir du pays, parce que, je veux dire, le principe du mineur isolé, c'est qu'il a quitté son pays dans des conditions qui peuvent être extrêmement difficiles et que c'est parfois, le contact est complètement rompu avec le pays d'origine et qu'ils ont énormément de mal à faire venir leurs papiers d'identité. Évidemment, donc ça, le recours peut être extrêmement long. Mais ensuite, ils vont devant le juge des enfants avec ces papiers et ils sont ensuite reconnus mineurs. Mais pendant la période où ils sont mis dehors par le Daomi, et je vous dis à 80%, alors qu'avant, c'était à 80%, ils étaient pris en charge tout de suite.
Par l'aide sociale à l'enfance.
Par l'aide sociale à l'enfance, en effet. Entre cette période où ils sont mis à la rue et le moment où ils sont reconnus mineurs et du coup pris en charge par l'ASE, ils sont complètement démunis, ils sont à la rue. Et c'est uniquement avec les associations qui font ce qu'elles peuvent, qui peuvent se nourrir. Enfin, ils n'ont pas d'argent, pas de nourriture, pas de logement, pas de vêtements, enfin, et pas de suivi de santé, Alors que plus on a plusieurs jeunes qui ont voilà, qui ont des situations médicales extrêmement compliquées et ils sont complètement complètement démunis.
Alors, que s'est-il passé donc quand on s'est retrouvé il y a 3 jours sur les allées Jules Guesde avec vos tantes? Ousmane, peut-être tu peux prendre la parole pour cette dernière actualité, je dirais. Après, on reviendra sur ton parcours, peut-être dans la deuxième émission, mais là, on est sur le point d'actualité aujourd'hui à Toulouse.
Bonjour tout le monde. Nous avons été mis à la rue, où nous n'avons pas eu un endroit où rester. Et maintenant, on est parti squatter dans la rue au palais de justice, on a mis nos tentes. Mais malheureusement, 3 heures du temps après, la police est venue nous déguerpit, ils nous ont enlevés, ils nous ont cherché de quitter. On n'avait ni le droit de squatter, ni le droit de rester dehors dans la rue. C'était traumatisant, alors que il y en avait beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et pourtant, il pleuvait en ce moment. Il pleuvait, il y avait la pluie, mais il n'y avait aucune solution pour nous.
Et qu'ont fait la plupart des jeunes, alors du coup, que j'ai vu repartir après avoir replié leur tente?
La plupart d'entre nous, ce qu'on fait, c'est de rester, c'est de se poser la question où on va aller, où qui va s'occuper de nous, puisque le gouvernement, il ne veut pas nous aider. À part les associations, il n'y a personne qui est là. On se pose les questions, on s'est dit... où on va aller, où on va dormir, où on va, comment on va manger, comment on va faire. Et nous, les personnes qui sont à l'école, comment on va faire pour continuer à aller, comment on va faire pour se concentrer, puisqu'on n'a pas un endroit où dormir, ni se laver.
Alors concrètement, justement, comment tu as fait pour ce soir-là et les autres? Où est-ce que vous avez mangé, où est-ce que vous avez dormi? Et comment tu poursuis le fait d'aller à l'école? Peut-être que Jennifer veut répondre là-dessus, ou vous échangez l'un et l'autre?
Lui en particulier, il est venu à la maison, mais moi je suis pas supposée me substituer au pouvoir public, parce que c'est ma maison elle est limitée aussi, et que ça veut dire que les autres sont dehors. Il faut savoir quand même qu'une expulsion c'est extrêmement traumatisant, d'abord, enfin voilà, physiquement et puis mentalement. Enfin je veux dire, on n'arrête pas de leur envoyer le message que on ne veut pas d'eux, qu'il faut qu'ils disparaissent, qu'ils ne valent moins que rien, et je veux dire, nous, on les connaît. Il faut savoir que parmi les jeunes que l'on suit, on en avait plus de 40 scolarisés. On a eu de nouvelles places à l'école. Donc, en fait, là, on en a plus de 50 qui sont scolarisés.
Sur la centaine qui étaient dehors, à peu près.
Exactement. Et les autres sont dans des démarches. C'est-à-dire que les autres, ils ont des rendez-vous pour avoir des évaluations scolaires, pour essayer de trouver une place à l'école. Et bien, ces jeunes-là... tout ce qu'ils font de bien, c'est complètement occulté, parce qu'il faut savoir qu'en plus, en général, ils réussissent incroyablement bien leur scolarité, on en parlera, parce qu'ils savent pourquoi ils sont à l'école.
Les professeurs sont assez dithyrambiques sur les moteurs qu'ils peuvent être vis-à-vis des autres élèves, parce que vu la vie qu'ils ont eue, ils savent de quoi ils parlent, ils connaissent les difficultés et ils ne sont pas bégueules vis-à-vis de notre système scolaire. Ils ne sont pas toujours en train de le dénigrer ou en train de vouer les profs aux gémonies. Au contraire, et pour les profs, ce sont souvent des locomotives, ces jeunes-là.
Ah oui, complètement, complètement, je veux dire. Et d'ailleurs, donc on a commencé à scolariser les jeunes il y a à peu près 7 ans. Et je veux dire, maintenant, c'est à la limite si on ne les réclame pas. Parce qu'en effet, ce sont des éléments stabilisateurs en classe. D'abord, ils travaillent très bien, très investis dans leurs études. Mais en effet, ils apportent à la classe et à leurs camarades français qui ne connaissent pas ça du tout, alors sans partager leur parcours, mais un certain apaisement et aussi une certaine motivation par rapport à l'école, parce qu'eux, ils sont incroyablement motivés pour le faire. Et en effet, du coup, on est incroyablement bien soutenus par les établissements et publics et privés, parce que ce sont des jeunes qui en veulent, qui sont extrêmement respectueux des professeurs. Ils sont d'ailleurs en général extrêmement choqués de la façon dont... ça peut se passer en classe, voilà, c'est la façon dont sont abordés les professeurs par certains élèves, et voilà, c'est des réussites absolument exemplaires.
Et on reste discret sur les écoles et puis sur votre identité, Ousmane, enfin sur ton identité, parce que c'est dangereux forcément à partir du moment où un jeune peut être coincé entre guillemets, il peut être envoyé directement et tous ses efforts sont complètement couler.
Oui, oui, c'est surtout qu'on veut pas, et on veut pas que ça joue contre eux. C'est-à-dire que on leur demande d'être extrêmement discrets sur leur situation à l'école, parce que il y a beaucoup de gens qui imaginent pas ça et qui ne peuvent absolument pas le comprendre. Et donc on a eu une fois un jeune qui a eu sa photo diffusée. Du coup, les autres sont venus le voir, alors que voilà, eux ils veulent être des jeunes, des jeunes élèves comme les autres. Et donc, dans ce cadre-là, il faut aussi que... et puis, c'est incompréhensible pour les gens quand ils entendent parler de squat, quand ils entendent parler de recours, de juges, d'avocats. Ils pensent que les jeunes sont coupables, alors que c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est l'État qui les laisse complètement tomber et que eux, pourtant, ils sont là à donner la preuve, et notamment dans la scolarité, mais même ceux qui prennent cours avec nous et qui font ensuite leur test scolaire, ils donnent la preuve à quel point ils respectent la France, à quel point ils veulent s'intégrer, à quel point ils veulent travailler.
C'est ça l'espérance, très très concrètement. Inutile de se gargariser de mots et de concepts, ici c'est la chair de nos jeunes qui parle d'espérance. Et nos jeunes, jaunes, blancs ou noirs, ils sont maltraités par notre société. Mais ils ont de la ressource en matière d'espérance. Alors, à la semaine prochaine.